nzamba
nzambira samirana
Le journal avec
Bertrand Gendakouridjo.
Encore une fois, réel plaisir de vous retrouver sur la radio Nzamba Gatika Kawe. C'est le moment du journal de ce 12 mai 2025. Tout de suite, les titres. Tout d'abord, le député Jean-Baptiste Sinda Egaya, élu sous la bannière du CNDD-FDD et membre de l'ethnie Twa, a été victime d'une violente agression perpétrée par des agents du service de renseignement samedi soir à Kamenge, alors qu'il rentrait de la province de Mwaro. La coalition de l'opposition au CFO Arusha dénonce une atteinte grave à l'immunité parlementaire et appelle à une réaction urgente des institutions pour faire la lumière sur cette affaire. Ensuite, le Conseil national de la communication invite les journalistes à accorder la parole à tous les candidats et à éviter tout discours offensant lors de la couverture des campagnes électorales. Enfin, les détenus de la prison centrale de Rumonge sont privés de nourriture depuis plus de 2 semaines. Leur famille lance un appel urgent à l'État pour éviter des conséquences irréparables. Voilà pour le sommaire. Dans quelques instants, le développement des informations.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Encore une fois, bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, le corps sans vie d'un jeune homme de 21 ans a été retrouvé ce dimanche sur la colline Rutanga, en commune Gashkarou, en province Ngozi. Selon les informations en provenance de la localité, le défunt a été découvert pendu à une corde attachée à un arbre dans un champ de haricots. Ce drame soulève de nombreuses interrogations au sein de la communauté, d'autant plus que le jeune homme vivait encore chez ses parents et servait comme enfant de cœur dans son église. Pour l'instant, la police de Gashkanoa indique avoir ouvert une enquête afin de faire la lumière sur les circonstances de ce décès. Dans la page Droits de l'homme, le député du CNDD-FDD Jean-Baptiste Sinda Egaya a été victime d'une attaque perpétrée par un groupe de malfaiteurs armés samedi aux environs de 19h30 dans la zone Kamenge. L'incident s'est produit alors que son représentant du peuple issu de l'ethnie Twa rentrait de la province de Mwaro. Selon ses déclarations, les assaillants l'ont violemment roué de coups avant de lui dérober une somme de 500 000 francs burundais ainsi qu'un téléphone portable. Jean-Baptiste Sinda Egaya pointe du doigt un groupe d'agents du Service national des renseignements, affirmant même que certains députés pourraient être impliqués dans cette agression. Il revient ici sur les faits.
Hier, je rentrais de l'intérieur du pays vers 19h30 à bord d'un véhicule blanc double cabine quand j'ai vu venir devant moi un autre véhicule double cabine avec des vitres fermées et teintées en noir. Ce véhicule s'est arrêté devant notre véhicule et mon chauffeur s'est arrêté. C'était un groupe de 4 personnes habillées en civil et avec quelqu'un qui avait un fusil de type Kalachnikov. Et puis, ils ont commencé à me tabasser fort. J'ai crié pour dire que je suis un député, mais sans succès. Ils m'ont mis dans leur véhicule après m'avoir volé une somme d'argent de 500 000 francs burundais que j'avais et un téléphone neuf que je venais d'acheter. Après, ils ont fermé la porte du véhicule et juste après, la population a crié fort qu'il y avait un député qui allait être tué. C'est ainsi que des policiers de la gare du Nord au niveau du quartier 1 sont venus voir ce qui se passait. Ils m'ont retiré de ce véhicule dans lequel il y avait un autre citoyen qui avait été lui aussi sérieusement tabassé au niveau des yeux. Le groupe de malfaiteurs est parti avec ce citoyen, prétextant que c'était lui qui m'avait fait mal. Mais en réalité, il avait été lui aussi victime de la violence de ce groupe de malfaiteurs. Il a été tabassé sérieusement au niveau de ses 2 yeux. Moi, on m'a frappé au niveau d'un seul œil, mais après j'ai caché mon visage pour qu'on frappe les autres parties du corps. Je les ai bien vus. Ce sont des gens de la documentation nationale. Malheureusement, j'ai pas pu retenir le numéro d'immatriculation de leur véhicule parce qu'il était caché. Et je pense qu'il y a des députés qui sont derrière la violence dont je suis victime.
Réagissant à cet incident, la coalition de l'opposition politique SFO Aoucha estime que ce qui est arrivé à ce parlementaire, pourtant protégé par l'immunité parlementaire, constitue non seulement une honte pour le pays, mais illustre aussi, selon elle, la réalité persistante des violations des droits humains au Burundi. Elle considère que cet acte ternit l'image du service national de renseignement. Je veux maintenant Jean Bosco Guigemela, vice-président de la SFO Aoucha.
Ce qui vient de se passer à Kamenge, précisément à la gare du Nord, contre le député Sinda Igaya Jean-Baptiste, est affreux. Ça dénote la dérive du pouvoir, mais ça devrait aussi servir de leçon. Une question se pose. Est-ce que le service national de renseignement est au-dessus de la loi? Et la fameuse immunité parlementaire s'applique-t-elle aux uns et non aux autres? La scène de lutte entre les agents du service national de renseignement et la police dépasse l'entendement. C'est vraiment une honte. Une victime de la violence physique subit un montage grotesque qu'elle est auteur d'une autre violence subie au grand jour par un député. Cela ne ternit pas davantage l'image de ce service national de renseignement. Ce parlementaire s'est plaint auprès du premier ministre qui lui-même l'a référé au ministère de l'Intérieur et à l'Assemblée nationale. Que signifie tout cela? Le président de l'Assemblée nationale a toujours nié la violation des droits de l'homme dans le pays. Va-t-il cette fois-ci changer d'avis? Va-t-il comprendre cette réalité puisqu'il s'agit de son député? Ne devra-t-il pas s'adresser à son tour à l'exécutif au plus haut sommet qui gère ce service national de renseignement? Va-t-il oser le faire? Ce député, qui normalement est du CNDD-FDD, affirme que tout a été orchestré par ses collègues de l'Assemblée nationale. Peut-on dire qu'il s'agit d'un règlement de compte interne au sein de l'Assemblée nationale ou au sein du parti? Ce qui s'est passé ne mérite pas une approbation, certes, mais c'est un acte parmi tant d'autres qui arrive à plusieurs personnes et qui ont toujours été dénoncés par pas mal d'organisations. Malheureusement, ça n'a jamais fait l'objet d'aucune quelconque désapprobation de la part de l'Assemblée nationale qui est censée se préoccuper des citoyens qu'ils représentent.
Jean Bosco Guigemela appelle par ailleurs l'Assemblée nationale à se saisir de ce dossier afin que justice soit rendue aux députés agressés. Écoutez-le encore une fois.
Dans ces forts Aoucha, notre souhait est que les choses ne s'en arrêtent pas là. Ça devrait normalement servir de leçon aux uns et aux autres. Le président de l'Assemblée nationale devrait-il cette fois-ci admettre que la violation des droits de l'homme est une réalité? Il devrait tout au moins défendre son député menacé. C'est vraiment le minimum. Demain, ça pourrait être lui-même. Le ministre ayant la police dans ses attributions devrait tout faire pour défendre non seulement sa population, mais également féliciter, défendre ces agents de police qui ont rempli bien leurs devoirs. Ils devraient faire tout ce qui est en ses pouvoirs pour mettre fin à ce désordre qui n'honore pas les institutions de la République. Quant au Premier ministre, s'il est vraiment dépassé par le désordre observé, s'il ne trouve plus sa place dans l'accomplissement des devoirs de l'État, il devrait avoir le courage de démissionner. C'est plus honnête.
La persistance des actes de violence politique ciblant principalement les membres des partis d'opposition met en lumière l'incapacité du gouvernement burundais à assurer la paix et la sécurité pour tous les citoyens. C'est ce que souligne le rapport hebdomadaire de l'organisation SOS Torture Burundi, publié ce dimanche. Selon ce rapport, à l'approche des élections, le climat de peur et d'insécurité risque de dissuader de nombreux électeurs, en particulier ceux issus des rangs de l'opposition, de participer au scrutin. L'organisation craint que cette situation compromette la transparence et l'inclusivité du processus électoral. Voici les explications de Gervais Bigila, responsable du programme au sein de SOS Torture Burundi.
Au cours de cette semaine du 3 au 10 mars 2025, SOS Torture Burundi a répertorié 3 personnes qui ont été assassinées dans les provinces de Gitega et Muramvya, et un militant du parti Sadofrodiou grièvement blessé par des bombes lancées en province de Makamba, ainsi que 2 personnes enlevées en mairie de Bujumbura. À la prochaine élection, ce rapport montre qu'il y a toujours l'essence du climat de peur et d'insécurité. Le fait que des assassinats, des enlèvements et des agressions ciblées soient encore recensés donne l'impression que l'État ne garantit pas la sécurité des citoyens, notamment ceux des opposants politiques. Le cas du militant qui s'en est fait blessé par des immobiliers associés au parti au pouvoir au sein du FTD peut renforcer la perception que les institutions tolèrent ou encourage des actes de violence politique. À la prochaine élection, de tels actes sapent la confiance dans un scrutin libre, transparent et équitable. Cela pourrait décourager la participation électorale, surtout parmi les sympathisants de l'opposition. Les cas documentés cette semaine par SOS Torture Burundi témoignent une fois de plus de la présence d'un climat d'impunité au Burundi, marqué par des assassinats, des enlèvements, des actes de torture et de dispersion forcée impliquant dans la plupart des cas des agents de l'État ou des membres de la milice Imbonerakure. Ces graves violations des droits humains s'inscrivent dans un contexte de répression politique et d'absence manifeste de volonté des autorités d'engager des enquêtes impartiales et de sanctionner les acteurs. Et ce torture Burundi réitère son appel aux autorités du pays pour qu'elles prennent des mesures urgentes afin de mettre en terme à ces pratiques humaines, de garantir la sécurité de tous les citoyens et d'assurer que justice soit rendue aux victimes.
Dans le même contexte, à la veille du début de la campagne électorale, le Conseil national de la communication exhorte les médias à accorder la parole à toutes les parties de manière équitable. Cet appel a été lancé ce lundi par Espérance Ndayizeye, présidente du CNC, à l'issue d'une rencontre avec les responsables des organes de presse. Elle a souligné l'importance pour les journalistes de traiter les activités et les programmes des différents candidats avec professionnalisme, en évitant tout langage injurieux ou diffamatoire susceptible de compromettre la sérénité du processus électoral. Écoutons Espérance Ndayizeye.
Nous avons interpellé les responsables des médias de rester impartiales pendant la couverture de la campagne électorale, la couverture du scrutin et de la préélection. Nous avons appelé les médias à donner la parole à tous ceux qui sont en compétition. Promouvoir le pluralisme dans leurs médias. Aux médias publics, nous allons organiser le tirage au sort des partis politiques, des coalitions et des indépendants en compétition pour le passage de leurs messages, de leurs discours politiques, de leurs programmes politiques dans les médias publics. Mais pour les médias privés aussi, nous les interpellons à renforcer le pluralisme et à donner la parole à tous ceux qui sont en compétition. En période électorale comme en période normale, la loi continue à fonctionner. Nous allons toujours appliquer la loi sur la presse et les autres instances appliqueront la loi à leur disposition. Il y a beaucoup de lois en période électorale. Il y a le code électoral, il y a les lois, les textes et lois nationaux. Chacun, en ce qui le concerne, va appliquer la loi qui est à sa disposition. Pour le Conseil national de la communication, notre action est basée sur la loi sur la presse.
Inzamba. Poursuivons ce journal avec cette situation pénible des détenus de la prison centrale d'Olumongé qui font face à une grave pénurie alimentaire selon des sources internes à l'établissement. Cela fait plus de 2 semaines qu'ils ne reçoivent plus les rations habituelles de farine et de haricots. Cette situation alarmante suscite l'inquiétude des familles qui redoutent des conséquences dramatiques si rien n'est fait rapidement. Elles appellent les autorités à intervenir de toute urgence pour éviter que la situation ne se détériore davantage. Les précisions avec Julienne Muzinga.
Des informations en provenance de la prison centrale de Lumonge indiquent que les détenus n'ont pas reçu de farine depuis plus de 2 semaines, ni de haricots depuis plus d'une semaine. La semaine dernière, une petite quantité de nourriture a été distribuée pendant 2 jours provenant d'un échange de provisions avec la prison centrale de Bururi. En temps normal, chaque détenu reçoit quotidiennement un demi-gobelet de farine et un demi-gobelet de haricots. Ils doivent toutefois se procurer eux-mêmes du charbon, de l'huile et d'autres compléments pour pouvoir préparer le repas. Actuellement, la situation s'est détériorée. Aucune de ces rations ne leur est plus fournie. Ce dimanche, des membres d'une organisation catholique du diocèse de Bururi ont apporté de la farine de maïs, distribuant 2 gobelets à chaque prisonnier. Les familles des détenus s'inquiètent profondément pour leurs proches, craignant que ceux-ci ne meurent de faim. Et ils lancent un appel pressant au gouvernement afin qu'il intervienne rapidement pour résoudre cette crise humanitaire. La rédaction de la radio Inzamba à Katiekakawe a tenté de joindre par téléphone le responsable de la prison centrale de Lumonge afin d'obtenir des informations sur les mesures prises pour remédier à cette situation, mais c'est un succès.
Afin pour conclure ce journal, passons au sport. Tout d'abord, au volleyball, de nouveaux organes et dirigeants ont été élus pour un mandat de 4 ans à la tête de la Fédération de volleyball. Vous trouverez également dans ce journal les résultats du week-end du championnat national de basketball en football. Les clubs de Vitaro, Flambeau du Centre, Bumamuru et Musongati se sont qualifiés ce week-end pour les demi-finales de la Coupe du Président. Le point avec notre confrère Alexandre Nyungeku.
Ouvrons cette page hebdo rétrosport par le football. La Coupe du Président atteignait ce week-end la phase des quarts de finale. Ce dimanche, au stade Ngoma de Gitega, Vitalo a validé son ticket pour les demi-finales en battant son rival de tout le temps, Interstar, par 3-0. Au stade Mucho de Muyinga, Flambeau du Centre s'est imposé sur Aigle Noir par 1-0. Au stade Gatoire de Kayanza, large victoire de Bumamuru face à l'équipe de l'IR. Sur un score fleuve de 6-0, samedi, Musongati a battu difficilement Burundi Sport Dynamique par 1-0. Et les matchs des demi-finales sont prévus mercredi. Vitalo affrontera Musongati, tandis que Flambeau du Centre sera aux prises avec Bumamuru. Poursuite du championnat national de basketball, ce dimanche, Urunani a battu les Hippos par 80-54. Dynamo s'est imposé sur Taïgaz par 93-64. Victoire de Jimikana par 58-54. Et samedi, Young Eagles a battu Aigle Noir par 97-65. Les Méchas s'est imposé sur Muzinga par 97-57. Et enfin, l'IAM Team est venu à bout de Kern par un score de 74-69. Terminons par le volleyball où le général de brigade de police Serge Nakavula a été réélu samedi à la présidence de la fédération de cette discipline pour un nouveau mandat de 4 ans.
Merci également à toi Alexandre Nyungeko, ce sont ces nouvelles sportives qui clôturent ce journal. Merci de l'avoir suivi et un grand merci à mes collègues pour leur contribution à sa production. Je vous souhaite une excellente soirée chez vous, au revoir et à très bientôt.